Plus, on est en train de nous dire que la semaine est cruciale pour la survie de l'ALENA. Et bon, évidemment, il y a de quoi inquiéter les gens. C'est la gestion de l'offre qui est sur la table. C'est l'exception culturelle qui est sur la table. On a quelqu'un en ligne avec nous, et je suis très reconnaissant, qui a accepté notre invitation. Un des grands diplomates de sa génération, Raymond Chrétien, qui a été ambassadeur au Mexique, qui a été ambassadeur à Washington, puis aussi à quelques autres endroits, là, comme au Zaïre, puis en France, puis en Belgique et tout ça. Alors, Raymond et moi, on était là au tout début de l'ALENA. Moi, j'étais un bien modeste petit organisateur de logistique au cabinet du premier ministre. Lui était déjà un haut fonctionnaire. Raymond, merci d'avoir accepté mon invitation.
Luc, c'est un plaisir de te parler aujourd'hui. Effectivement, non seulement de te parler aujourd'hui, mais de parler à tes auditeurs de la Ville de Québec. J'ai fait mes études à Laval il y a plus de 50 ans, de 62 à 66. J'y retourne souvent. Et en ce qui te concerne, toi et moi, on a travaillé ensemble quand tu étais effectivement au bureau au cabinet de M. Mulroney. Je me rappelle quand tu as été nommé aussi représentant officiel du Canada à l'exposition internationale de Séville. Alors, c'est un plaisir de penser à tous ces souvenirs, Luc, et de te parler de l'ALENA aujourd'hui.
Alors, dis-moi, là, la semaine cruciale, ça en est une autre. Ça fait plusieurs fois qu'on nous parle d'une semaine cruciale. C'est quoi la réalité?
Ben, c'est une autre semaine importante. Mme Freeland est à Washington aujourd'hui et au cours des prochains jours avec son équipe. Je pense que il faut, au cours des prochains jours, déterminer si le Canada doit signer cette entente, doit se rallier aux États-Unis ou au Mexique ou simplement attendre un petit peu plus longtemps. Alors, c'est une semaine difficile parce que, comme tu le sais, comme tu le vois, l'agenda du président Trump est très, très chargé avec d'autres questions délicates. Par exemple, la confirmation de Kavanaugh, les taxes qu'il vient d'imposer à la Chine, énorme dossier en lui-même. Donc, pour le Canada, c'est un moment important. Et pour le gouvernement canadien, c'est une des décisions les plus importantes qu'il y aura à prendre au cours des prochaines semaines.
Mais disons que ça marche pas, là. Disons que ça marche pas, là. D'abord, on a un président qui est impulsif, pour dire ouais, le moins. Et il décide, lui, que, pour parler en bon québécois, il tire la plug. Qu'est-ce qui nous arrive?
Bon, on n'en est pas là. Je pense qu'il y a encore de bonnes chances qu'on ait une entente. Il faudra bien sûr que les Américains plient. Il faudra qu'ils fassent preuve de beaucoup plus de souplesse sur les questions importantes, celles que tu as mentionnées lors du début de cette entrevue, la gestion de l'offre, l'exception culturelle, le mécanisme de résolution des conflits, l'article 19. Il n'est pas exclu qu'ils fassent des compromis pour nous avoir au sein de cette entente. Maintenant, si jamais ça ne marchait pas au cours des prochains jours, des prochaines semaines, ça pourrait se prolonger jusqu'en 2019. Il y a des scénarios juridiques qui pourraient nous conduire jusque-là, et je préfère ne pas aller plus loin qu'au début de 2019. Dans l'hypothèse où ça ne marcherait vraiment pas, évidemment, il y aurait le retour à l'accord bilatéral Canada-États-Unis de 1987, qui contient presque 90% des dispositions de l'ALENA, donc ça ne serait pas la fin du monde. Voilà l'alternative la plus souvent mentionnée dans l'hypothèse d'un échec.
Mais au départ de l'ALENA, l'idée, c'était que le Canada se mettait avec le Mexique pour faire face à un géant qui était les États-Unis. Bon, ouais. Là, les États-Unis ont fait un accord avec le Mexique. Est-ce qu'on s'est fait trahir par le Mexique dans ça?
Trahir, c'est un grand mot, mais ce qui est arrivé, Luc, c'est ceci, c'est qu'au début de l'été, Mexicains et Américains ont décidé de négocier ensemble, seuls, pour s'occuper de la question la plus controversée, la plus délicate, la plus importante de l'ALENA, c'est-à-dire les automobiles. Où les automobiles doivent-elles être fabriquées? Quel doit être le contenu des automobiles nord-américaines pour qu'elles puissent être vendues sans impôts? Donc, un problème qui concernait surtout les États-Unis et le Mexique. Parce que, comme tu sais, depuis une vingtaine d'années, au nord du Mexique, il y a d'immenses usines d'automobiles. Il fallait que les Américains et les Mexicains règlent ce problème-là entre eux. Et ils nous ont dit, écoutez, on va le régler et ensuite vous reviendrez à la table. Le problème, c'est que au lieu de passer une semaine, une dizaine de jours à ne s'occuper que de ça, ils ont élargi leur discussion pour s'occuper de d'autres questions qui nous concernent directement. Par exemple, la culture, comme par exemple l'agriculture, la résolution des conflits. On s'est retrouvés à la fin de l'été, je ne dirais pas devant un fait accompli, mais devant un deal entre les États-Unis et le Mexique où les Américains ont dit, écoutez, on s'est entendu avec les Mexicains, ce qui est bon pour les Mexicains, c'est bon pour vous, maintenant, finalisons tout ça. Et là, et c'est là où ça a bloqué vraiment, parce que je pense que à Ottawa, c'est très très clair, M. Trudeau l'a encore dit hier, on va pas négocier un deal si c'est pas un bon deal pour le Canada. Autrement dit, si on n'est pas content, on sort de là. Alors, est-ce qu'on s'est fait trahir? C'est un grand mot. Mais je pense qu'il y a une froideur maintenant qui n'existait pas dans les relations entre le Mexique et le Canada. Ils nous ont pas laissé tomber parce qu'ils nous disent depuis, écoutez, venez avec nous. Sauf qu'on s'est retrouvé un petit peu devant un fait accompli et ça, c'est pas apprécié.
Ma collègue Myriam a une question.
Est-ce que, M. Chrétien, qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas d'entente? Est-ce que c'est mieux ou c'est pire pour nous s'il n'y a pas d'entente pour l'instant?
S'il n'y a pas une bonne entente, c'est mieux qu'il n'y ait pas d'entente. Il faut que l'entente soit bonne pour le Canada, sinon on est mieux de pas la signer là.
Mais est-ce que, par exemple, nos producteurs laitiers auraient intérêt à ce que les négociations durent plus longtemps? Autrement dit, est-ce que le temps joue
en notre faveur? Très bonne question. Nos producteurs laitiers, ils surveillent ça de très, très près parce que c'est un des enjeux les plus cruciaux de cette négociation. Qu'est-ce qui va arriver à la gestion de l'art? La gestion de l'art, c'est pas seulement le lait, c'est la volaille, le beurre, le poulet, etc. Mais pour les 5600 fermes laitières du Québec, c'est absolument crucial. Comme vous savez, ce marché, il est protégé. Dans les négociations entre le Canada et les pays du partenariat transpacifique, qui n'est toujours pas en vigueur, mais là, le Canada avait fait une certaine ouverture pour des importations étrangères américaines de lait sur notre marché. Alors là, c'est très, très délicat parce que, il faut protéger la gestion de lait. C'est une très grande priorité absolue du gouvernement du Québec. Alors, je pense qu'à Ottawa, on la partage aussi. Mais M. Trump, il s'est focussé et il ne pense qu'au lait quand il pense à lait. Il pense à ce tarif de 270% sur les exportations américaines de lait et il veut briser il veut nous briser là-dessus. Alors, c'est pour ça que ces jours-ci, c'est important. Alors, je pense qu'on va voir.
Si les négos durent, je vous avais évoqué début 2019, par exemple, là, les élections de mi-mandat seront passées. Est-ce que les Américains risquent d'être plus parlables après les élections de mi-mandat?
Très bonne question. Et encore une fois, pour répondre de façon précise à votre question, il faudrait savoir quel sera le résultat des élections à mi-mandat. Mais là, ça se joue bientôt, dans moins de 6 semaines, c'est le 1er novembre. Il y a beaucoup d'experts qui pensent que les démocrates pourraient reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, peut-être pas le Sénat, mais peut-être les deux, la Chambre et le Sénat. Mais il n'y a pas de doute qu'une configuration politique différente en janvier prochain, parce que le nouveau Congrès va se réunir à Washington, je pense que c'est le 5 janvier 2019. Là, ça pourrait changer la donne complètement, parce que les démocrates au pouvoir pourraient tout de suite commencer des procédures désagréables pour M. Trump. Ça sera toute une nouvelle partie politique et probablement, encore une fois, est-ce que ça serait plus favorable au Canada que pas? Je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il ne faut absolument... C'est le moment d'être ferme. Le temps joue en notre faveur, parce que si tout ça se prolonge, effectivement, M. Trump aura d'autres questions à régler, d'autres problèmes peut-être qui vont l'accaparer davantage et l'amener à faire des compromis pour le Canada. Parce que dans le fond, le Canada a des alliés sérieux, à la fois auprès des 35 gouverneurs dont l'État dont les États ont le Canada comme principal marché d'exportation. Le Canada a des alliés chez les démocrates et républicains présentement au Congrès. On a vu ce matin la Chambre de l'industrie des États-Unis, 3 millions de membres qui dit non, on ne veut pas y avoir une entente seulement Mexique et États-Unis. Il faut que le Canada soit là. On a beaucoup d'alliés qui font entendre leur voix aussi. Le problème, c'est que c'est une négociation comme je n'en ai jamais vu. Elle est un peu abracadabrante. Elle est politisée. Elle est politique. Tout le monde s'en mêle. Alors que par le passé, je me rappelle, moi, 1992-13, c'était fait un petit peu à pas feutré, c'était fait dans la discrétion. Aujourd'hui, tout est dans la presse immédiatement. C'est devenu très, très compliqué.
Alors, Raymond, une dernière question. Tu trouves, toi qui es ambassadeur à Washington, est-ce que c'est le monde à l'envers? Les démocrates, c'était les protectionnistes, puis les républicains, c'était les libre-échangistes. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah oui, alors ça, c'est... Cette distinction, Luc... Elle existe de moins en moins maintenant. C'est vrai que si on regarde l'histoire des 50 dernières années, les démocrates ont toujours été plus protectionnistes, mais ce n'est plus le cas. Ce sont les durs intérêts américains que démocrates et républicains défendent. Moi, je ne fais plus cette distinction. Elle n'existe plus. Alors, les Américains pensent à leurs durs intérêts. C'est le travail de nos négociateurs à Ottawa de penser à nos durs intérêts. Et je suis très, très content de voir qu'une attitude ferme à Ottawa. Il faut pas briser toutes nos lignes rouges. Je ne suis plus dans le secret des dieux. Je ne connais pas le mandat précis de négociation de Mme Freeland et de son équipe, mais c'est pas le moment de succomber ou d'abdiquer parce que je pense encore en conclusion que le temps joue en notre faveur.
Ça vient confirmer le t-shirt que portait Mme Freeland en rentrant en négociation. Je pense que c'est hier là. C'était écrit Keep calm and let's negotiate.
Je pense. Entre nous, je connais bien certains de nos négociateurs. Vous savez, les Américains sont de bons litigators. Le Canada a de très, très bons négociateurs parmi les meilleurs au monde. Alors, je leur fais confiance. Mais écoutez, tout ce que je veux vous dire, c'est suivez à l'heure ce qui se passe. Nous sommes mercredi. Mme Freeland va rester là quelques jours. Je n'exclus rien. Hein. Elle pourrait revenir vendredi avec une sorte d'entente de principe, mais je n'exclus pas non plus que ça se poursuive pour encore un bon moment.
Merci beaucoup, hein, Raymond. Merci. J'ai rencontré Raymond, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, dimanche, dans des circonstances un peu tristes, des funérailles d'une amie commune. Et Raymond, ça, la réalité, j'en reviens pas, il ne vieillit pas. Alors, merci, Raymond, d'être resté jeune et d'être là.
Au revoir. Bonne journée. Félicitations. Okay. Au revoir.
Peux-tu en avoir un peu de cet élixir de jouvence-là, moi?
Moi aussi.
Mais dans le fond, là, on nous dit toujours que c'est crucial, mais dans le fond, le temps joue en notre faveur.
Ben, c'est clair.
Restons calmes.
C'est clair. Il l'a bien expliqué. Là. On est beaucoup mieux de rester calme parce que le temps joue pour nous. Six semaines. Dans six semaines, les Américains vont décider qui va avoir la majorité à la Chambre des représentants. Et si les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre des représentants, ce que les sondages disent que c'est exactement ça qui va se passer, ça va être les procédures en destitution, ça va être une totalement différente dynamique.
Le Canada et la gestion de l'œuvre vont devenir le cadet de leurs soucis.
Voilà, et puis le temps va continuer de jouer en notre faveur.
Il est midi 22 minutes. Dans quelques instants, on essaye de voir clair dans ce qui est permis ou pas permis de faire pour aider ses congénères un peu plus maladroits.